que nous sommes la lumière du monde. Et vous aurez remarqué, une lumière ne sert à rien dans un lieu déjà éclairé. La lumière est faite pour briller dans les ténèbres. Et Dieu n'est pas, et vous le savez, je le sais, mais Dieu n'est pas limité dans son amour. Dieu n'a pas peur des pécheurs. Au contraire, il les aime et il nous dit d'aller, de ne pas attendre, mais d'aller. Alors, pour vous mettre dans le bain, on va passer une vidéo avec le son, puis on va continuer juste après. Ah, avec le son, s'il vous plaît. On va la remettre. L'histoire de Tatiana est une histoire vraie, c'est l'histoire de milliers et de milliers de femmes et de jeunes femmes. C'est en avril 2016 qu'une association qui s'appelle Hope and Joy, qui a été créée il y a 5 ans sur Montpellier, est venue à la pastorale nîmoise nous présenter le travail qu'ils faisaient auprès des personnes en situation de prostitution. Ils sont venus au mois d'avril, ils nous ont présenté cette vidéo, ils nous ont présenté le travail qu'ils faisaient sur le terrain. Et dans le but, bien entendu, de nous faire réfléchir en tant que pastoral, en tant que chrétien, sur effectivement le trafic humain et la prostitution aujourd'hui. Et c'est vrai que j'ai été, comme toutes les personnes présentes ce jour-là, touché, bouleversé par ce que j'ai vu, par ce que j'ai entendu. Et puis, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Alors j'ai pris plusieurs mois, nous avons pris plusieurs mois de réflexion, de prière, et entre-temps, une équipe, au mois de juin 2016, avec Emmanuel, qui est là, ici présent, ont commencé à travailler sur les routes de Nîmes de jour auprès des personnes en situation de prostitution, auprès des prostituées. Quelques mois après, au mois d'août, j'ai appelé le pasteur Daniel Mattioli, qui est le fondateur, un des fondateurs et le responsable de Open Joy Montpellier, en lui disant « je souhaiterais en savoir plus, je souhaiterais pouvoir m'impliquer ». Donc il m'a invité à 2 sorties de nuit sur Montpellier. Et c'est vrai que c'est là que j'ai découvert un milieu qui m'était jusque-là inconnu, mais quelque chose s'est passé en moi. J'ai été bouleversé par ces femmes, ces jeunes femmes, bouleversé de cette réalité, et de cette réalité de ce verset qui prenait pour moi une dimension toute nouvelle. Les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Pourquoi ? Parce que je n'ai, et nous n'avons jamais rencontré une prostituée qui était dans le déni de ce qu'elle faisait, qui faisait comme si de rien n'était. Alors, j'ai rejoint l'équipe de Nîmes, dont aujourd'hui je suis le responsable, puisque l'ancienne responsable a déménagé, et nous travaillons en équipe depuis ce jour-là. Dans Actes chapitre 10, verset 10, nous voyons qu'il a fallu à l'apôtre Pierre une expérience surnaturelle afin de pouvoir aller auprès de ceux pour lesquels il avait une certaine réticence. Dans son fonctionnement, il était inconcevable qu'il aille chez des non-juifs, manger chez eux, aller avec eux. Et Dieu a dû changer quelque chose parce qu'il avait cette idée « je ne toucherai pas ce qui est impur ». Et Dieu lui dira, ceux qui ne déclarent pas impur ce que Dieu déclare pur. Pierre a vécu à ce moment-là ce que beaucoup de religieux vivaient à son époque, quand ils voyaient Jésus manger avec les gens de mauvaise vie, qualifiés ainsi par les religieux, ou avec les prostituées. Mais le regard de Pierre a changé, et mon regard a également changé. Dans Proverbe 31, versets 8 et 9, il nous est dit « Tu dois parler pour défendre ceux qui n'ont pas la parole et pour prendre le parti de tous les délaissés. » Alors ce matin, nous sommes là en équipe pour vous parler de ce qui se passe dans les rues de Nîmes, dans les portes de notre ville, sur les routes tout autour de notre ville, de ce qui se passe dans le monde entier et en France, partout en France. Nous sommes là pour témoigner de ce que nous voyons, de ce que nous expérimentons, de ce que ces femmes et ces hommes vive. Nous avons souvent un manque d'informations ou une image erronée de ce qu'est la prostitution aujourd'hui. Beaucoup de gens pensent que toutes ces personnes sur le trottoir sont là par choix. Si on y réfléchit juste un instant, aucune petite fille ne rêve d'être vendue comme une marchandise sur un trottoir. Jamais. Ce n'est pas la réalité. La plupart, si ce n'est la majorité, sont victimes d'exploitation sexuelle, sont victimes modernes de la traite humaine. La traite humaine désigne le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de personnes par la menace ou le recours à la force ou par la contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité à des fins d'exploitation. La traite humaine est l'une des 2 ou 3 activités criminelles les plus lucratives au monde, avec le trafic de drogue et le trafic d'armes. Elle génère plus de 100 milliards de dollars. 100 milliards de dollars. On estime à plus de 45 millions de personnes les victimes de la traite humaine dans le monde. Et la traite humaine revêt plusieurs formes. Le travail forcé, le mariage servile, la délinquance forcée, les petits-enfants qui mendient. C'est une délinquance qui est forcée. Ils ne font pas cela de leur propre chef, on les oblige. La mendicité, la servitude domestique, le prélèvement d'organes et bien entendu l'exploitation sexuelle. En ce qui concerne la prostitution en France, on estime entre 30 et 37 000 personnes prostituées, quel que soit leur sexe, quelle que soit la modalité de leur mise en contact avec les personnes qui achètent l'acte sexuel, que ce soit dans la rue, que ce soit par Internet. Que ce soit par des annonces, 85% des prostituées sont des femmes, ce qui veut dire qu'il y a des hommes. 93% sont étrangères, principalement originaires d'Europe de l'Est, Roumanie, Bulgarie, Albanie, d'Afrique de l'Ouest, Nigeria, environ 53%, et de Chine. La quasi-totalité des prostituées sont sous la contrainte d'un proxénète ou d'un réseau de traite humaine. Il y a aussi ce que nous pouvons qualifier de prostitution sentimentale, où un petit copain, une famille, des parents vont forcer leurs petites amies ou leurs propres filles à se prostituer. C'est assez choquant de voir des parents prostituer leurs propres filles enceintes sur les routes de Nîmes, mais cela arrive, cela est monnaie courante. Nous faisons face aussi, parce que la prostitution, est, en fin de compte, c'est l'iceberg que nous voyons, mais il y a toute une misère. Il y a toute une misère. L'année dernière, au mois de mars, un réseau roumain a été démantelé à Nîmes. Le problème, c'est que les maris ont été mis en prison, mais les femmes, personne ne s'en est occupé, ni des enfants. Et donc, nous étions en tournée sur les routes, près de Caissargues, et là, nous voyons trois de nos bien-aimés qui rentraient, et puis on a fait demi-tour. Et puis on leur a proposé de les ramener chez elles. Et puis elles nous ont amenés dans leur maison, cette caravane remplie d'immondices avec tous leurs enfants qui étaient là. Et donc il y a une véritable misère sociale derrière cela. Ces jeunes femmes sont exposées de manière quotidienne à la violence des clients, à la violence des proxénètes, à la violence des réseaux, mais également à la violence des délinquants, le vol, racket, et même à la violence des passants. Ce sont des violences verbales, ce sont des violences physiques, des coups, des blessures et parfois des homicides. Ce sont des violences sexuelles, parce qu'elles sont souvent, elles peuvent être violées. Ce sont des violences verbales et psychologiques, insultes, humiliations, stigmatisations. Il n'est pas rare d'entendre sur le terrain que certaines jeunes femmes ont été battues, menacées d'une arme blanche ou d'un revolver pour les contraindre à faire ce pour quoi elles ne sont pas faites. Il y a quelques mois de cela, deux d'entre elles sont montées dans une voiture, ça se passait sur le boulevard Talabo, et la voiture ne s'est pas arrêtée. La voiture a filé direction la ZUP Sud. Bien entendu, quand on prend dans sa voiture deux jeunes femmes, deux prostituées, et qu'on les amène direction la ZUP Sud, c'est parce qu'il y a derrière cela des idées macabres, des idées folles, des idées indignes. Et elles ont pu s'échapper, grâce à Dieu, on peut dire, parce que la majorité d'entre elles sont croyantes. On vous parlera, Justine va vous parler du travail que nous faisons mensuellement. Il y a des conséquences également psychotraumatiques, physiques, gynécologiques, des troubles de sommeil, pour certaines d'entre elles, la drogue. 67% des personnes prostituées présentent des symptômes semblables à des personnes que l'on torture. Il y a, quand on voit des personnes qui arrivent pour la première fois ou qui sont là depuis quelques jours, il y a une telle brisure, une telle cassure, quand on les voit pour la première fois ou pour les premières fois, les seules choses souvent que l'on voit, ce sont des larmes parce qu'elles sont brisées. Et cela prend plusieurs mois afin qu'il y ait comme un dédoublement de personnalité. Cela prend plusieurs mois afin qu'elles puissent bâtir comme une forteresse en elles pour ne pas simplement mourir. Pour ne pas simplement mourir. Nous pourrions évidemment parler des conséquences spirituelles. Mais toutes ces femmes que vous voyez, que nous voyons sur le bord des routes, sur les boulevards de Nîmes, ce ne sont pas des voleuses de mari. Ce ne sont pas des filles faciles, ce ne sont pas des femmes perverses, ce ne sont pas des femmes perverties, ce sont des victimes. Ce sont des victimes. Oui, la Bible fait la différence entre une personne qui se prostitue toute consciente de ce qu'elle fait et la personne qui est prostituée de force. 1 Timothée chapitre 1, verset 10, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 10, nous disent que les marchands d'esclaves ne rentreront pas dans le royaume de Dieu. L'Ancien Testament met la faute, impute la faute à ces personnes qui sont, en fin de compte, génératrices de souffrance et sont des marchands, non pas de sommeil, mais d'esclaves. Alors, notre association, Hope and Joy Nîmes, fait 4 sorties par mois. Là, nous avons réduit celle de nuit, mais nous allons les reprendre. Nous faisons 2 sorties de jour, 2 sorties de nuit. Sur Nîmes et les environs, nous avons à ce jour rencontré un peu plus de 72 personnes, 72 femmes, 2 hommes. Elles sont en provenance de différents pays. Elles ont entre 16 et 65 ans. À Montpellier, la plus âgée a 82 ans. Il n'est pas rare de rencontrer des jeunes filles entre 13 et 16 ans. Sur Paris, il y en a énormément. Elles proviennent de Roumanie, de Bulgarie, d'Albanie, du Nigeria, du Cameroun, de Guinée équatoriale, du Brésil, du Maroc et de la France. Il y a en France, comme je le disais tout à l'heure, 53% de jeunes femmes originaires du Nigeria et qui sont dans les rues. Comment se retrouvent-elles là ? Eh bien, premièrement, à cause d'une situation financière. Une personne va se présenter dans leur famille, promettant un travail, promettant l'Eldorado. Beaucoup de ces jeunes femmes, quand elles ne sont pas mineures, ont des enfants. Alors elles vont arriver en France par avion, sous de faux prétextes, seront enregistrées plus tard avec de faux actes de naissance. Elles arrivent également aussi par des réseaux clandestins, mafieux via la Libye, via l'Italie, via les bateaux qui traversent la Méditerranée. On pourrait se dire, mais toutes ces jeunes femmes pourraient s'échapper. Aucun d'entre nous ne pourrait imaginer se dire, on me met sur le trottoir, mais je pourrais m'échapper. En fait, la réalité, c'est que c'est non, ce n'est pas possible. Pour toutes ces femmes nigérianes, par exemple, alors en plus du fait d'être battues, d'être maltraitées, elles passent toutes par un rite vaudou, une cérémonie dans laquelle on les oblige à prêter serment. Alors elles vont avoir une sorte de fétiche que l'on appelle le juju. On va les menacer de mort. Ces filles vont être vendues à des réseaux de proxénétisme et les proxénètes pour ces réseaux sont souvent des femmes, des mamas. Elles vont être vendues pour environ 3 500 euros. Et une fois recrutées, ces jeunes filles auront à rembourser une dette allant de 35 000 à 50 000 euros. Et dans le domaine de la prostitution, les Nigérianes ne sont pas les mieux placées pour vendre leur corps. Cela va leur prendre peut-être 7, 8 ans, avec des conséquences psychologiques. Énormément d'entre elles vont, durant leur temps de prostitution, tomber enceinte. Alors c'est vrai, la loi française permet la protection et permet, puisque la prostitution en France n'est plus un crime, ce sont les clients qui sont pénalisés. Mais la loi française permet la protection de ces victimes et offre le secours, le papier, les papiers à toute victime de réseau qui dénonce. Mais le problème, c'est que quand on a des enfants et une famille, comme on l'a vu dans le clip vidéo, le fait de dénoncer, c'est prendre aussi le risque de mettre en danger sa famille. Il y a donc une pression psychologique. Je me souviens d'une des jeunes filles que nous avions rencontrées sous le boulevard Talabo, en tout cas près de la gare. Et elle nous disait, il me reste 37 000 euros à payer. Et je disais, mais tu ne peux pas dénoncer ton réseau ? Non, elle dit, j'ai des enfants. Si je le dénonce, moi je vais être protégée, mais qui va protéger mes enfants ? Qui va protéger ma famille ? Et ça, c'est la réalité de la prostitution en France. On voit parfois des reportages, mais ces reportages ne donnent pas une certaine réalité, la réalité. Alors certains hommes politiques ont dit la solution ce serait d'avoir des maisons closes. Parce qu'on pourrait contrôler, il y aurait une hygiène, il y aurait plein de choses comme cela. Mais la réalité c'est que si vous prenez par exemple l'exemple des Pays-Bas, c'est un échec total. La majorité des filles ne sont pas hollandaises et elles sont victimes aussi du trafic humain. Ces maisons closes sont sous la main de la mafia. Donc en fin de compte c'est un constat d'échec, que ce soit aux Pays-Bas, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Espagne. Et en fin de compte, C'est pour ça que la loi française punit les clients, parce que plus il y a de la demande, plus il y a du trafic humain. Et quand on voit, comme je vous disais, que les âges baissent de plus en plus pour arriver à 13, 15 ans, c'est déprimant, quelque part, mais nous sommes là pour apporter un autre regard. Et je vais laisser la place à Emmanuel, qui va nous parler du regard.
Merci. Alors, c'est vrai qu'une de nos missions, c'est justement d'amener un autre regard sur ces filles-là. On fait ce travail-là auprès de la police, qu'on rencontre parfois dans la rue, et c'est vrai qu'ils ne sont pas toujours très, très tendres avec ces filles. Mais en parlant avec eux, en leur expliquant la situation, on a vu des regards changer, on a vu des attitudes changer. Et puis, on fait aussi ce travail dans les assemblées, avec les frères et sœurs. Et j'aimerais vous interpeller justement sur quel est notre regard sur ces filles. Comment vous les regardez? Alors évidemment, il y a des regards qui ne sont pas justes. Il y a des regards qui peuvent être impurs, des regards chargés de désirs. Et ça, on n'est jamais à l'abri de ça. Il y a des regards qui peuvent être des regards de mépris. Un peu le regard du pharisien, vous savez, qui juge les autres et qui se sent au-dessus et qui se dit, mais elles sont sales. C'est voilà, ce regard du bon chrétien qui se sent à l'abri. Mais si on est honnête avec nous-mêmes, si on sait d'où on vient et de quoi Jésus nous a sauvés, si on connaît vraiment l'état de notre chair, on ne peut pas avoir de regard supérieur. On peut juste être dans l'humilité et les considérer comme des sœurs. Et c'est vraiment cette conscience de qui on est et de d'où Jésus nous a rachetés qui fait qu'on ne peut pas les mépriser. Et puis il y a un autre regard aussi, c'est celui de l'indifférence. On peut les voir passer et puis ça ne nous interpelle pas. Et j'avoue que c'était un peu mon cas. Il y a quelques années, quand je passais au travail, tous les jours je passais sur la même route et il y avait une voiture arrêtée avec une fille qui attendait les clients. Et je passais tous les jours devant cette dame. Et je la voyais, et j'étais triste pour elle, mais j'y pouvais rien. Et puis un jour, je lisais ma Bible, ça m'arrive des fois, et je lisais la parabole du bon samaritain. Et en lisant ça, j'ai été révolté. Enfin, je pense comme vous, quand vous lisez cette histoire, je disais, mais comment c'est possible que les gens passent à côté de lui et que personne ne s'arrête? Donc j'étais révolté. Et là, le Saint-Esprit en moi qui me dit, et toi, tu t'arrêtes quand? Pour elle. Alors là, je me suis pris ça. Ça a été violent. Et intérieurement, j'ai commencé à raisonner. Je dis, mais si je m'arrête, pour faire quoi? Pour dire quoi? Qu'est-ce que je peux lui apporter? Et puis en plus, bon, moi, je suis enseignant. Je travaillais dans un collège. Et je me dis, mais si je m'arrête et que les élèves me voient, alors là, c'est fini, je suis mort. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont croire? Donc, puis en plus, je suis quelqu'un d'assez réservé, donc je n'arrivais pas à m'imaginer m'arrêter pour cette personne. C'était au-delà de mes forces. Mais le Saint-Esprit ne me lâchait pas. Il me disait, et toi, tu t'arrêtes quand pour elle? Alors j'ai lutté intérieurement un moment, et puis à un moment, j'ai capitulé, je dis, d'accord, je vais m'arrêter. Alors j'ai calculé mon coût. Je dis, bon, de telle heure à telle heure, les bus scolaires ne passent pas. Donc tel jour à telle heure, je vais tenter. Et je me souviens, je tremblais, j'étais stressé parce que je ne savais pas ce que je pouvais ni lui dire ni lui apporter. Mais je me suis arrêté pour elle. J'ai commencé à parler avec elle, à prendre de ses nouvelles. Je lui ai dit que j'étais chrétien et je lui ai témoigné de l'amour de Dieu. Et cette femme, elle était bouleversée parce qu'elle me dit « Mais jamais personne ne me voit comme vous me voyez. » Tout le monde la voit comme une marchandise, mais jamais personne la voit comme une fille qui a un cœur que Dieu aime, elle a été touchée. Et cette fille-là, elle avait des parents chrétiens. Évidemment, elle avait quitté la foi, mais voilà, Dieu l'a cherchée, Dieu l'a interpellée. Et je lui ai dit, mais venez à la maison quand vous voulez, avec ma femme, on vous accueille, on peut prier avec vous. Elle me disait, je ne peux pas avoir d'amis tant que je fais ce travail-là. Donc je lui ai laissé mon numéro de téléphone, je lui ai dit, moi, ce que les voisins pensent, je m'en fous, vous êtes la bienvenue, n'hésitez pas. Donc je sais que ce qui a été semé, c'était important pour elle. Et en discutant avec une amie récemment, qui habite un peu plus loin de chez nous, elle me raconte la même histoire que celle-là. Et en croisant nos histoires, on s'est aperçu que c'était la même fille. Donc Dieu la cherche et Dieu interpelle des chrétiens pour qu'ils s'arrêtent pour elle. Donc ne soyons pas indifférents. Alors comment dans tous ces regards, comment on peut avoir le regard juste ? Le regard juste, c'est celui du Père. C'est celui de notre Père. Et pour ceux qui ont des enfants, vous allez tout de suite comprendre si c'était votre fille. Si c'était votre fille, est-ce qu'on pourrait... Si c'était votre fille, est-ce qu'on pourrait avoir un regard impur sur elle ? C'est pas possible. Est-ce qu'on pourrait avoir un regard de mépris comme les pharisiens ? C'est pas possible. Et est-ce qu'on pourrait être indifférent ? C'est pas possible non plus. Et quand on est habité du regard du Père, alors là, le regard est juste. Et là, on peut leur donner de l'amour, de la tendresse, de l'affection. Et là, ça passe. Là, c'est juste. Donc voilà, n'est jamais à l'abri d'avoir des regards qui ne sont pas justes, mais que l'Esprit en nous fasse ce travail-là et nous amène à ce regard juste qui est celui du Père. Et c'est vrai qu'une des choses difficiles dans ce qu'on fait, c'est que des fois, on aimerait les kidnapper. On aimerait ouvrir le coffre, les mettre dedans et les sortir de la rue. Des fois, ça bouillonne à l'intérieur. Et c'est dur de devoir repartir et les laisser dans la rue. Et des fois, je me suis dit, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on fait ? Ça sert à quoi ? Et là, il m'est revenu ce passage où Jésus dit, j'étais en prison et vous m'avez visité. Il ne dit pas, j'étais en prison et vous avez fait péter les verrous, vous m'avez fait sortir de prison. Il dit, vous m'avez visité. Alors oui, c'est dur, c'est frustrant de ne pas pouvoir les libérer de prison. Mais on peut quand même les visiter et dans leur prison, leur amener la lumière qui est Jésus, leur amener un peu de chaleur, de l'affection. Et pour elles, ça fait énormément de différence.
Alors, Ghislaine, avance-toi si tu veux. C'est vrai que... Alors, une partie aussi de ces jeunes femmes sont là à cause de la misère, des enfants à nourrir. Je disais un jour dans mon église, dans notre église, que je veux choquer personne, mais je disais, on est parfois mieux accueillis dans la rue que dans l'église. Quand on voit avec Manu, quand on va sur certains boulevards, elles arrivent en courant parce qu'elles ont peur de nous rater. Elles ont peur de rater ce moment-là. On se fait même engueuler parce qu'on ne vient pas assez souvent. Et il y a un tel respect. Je me souviens, l'année dernière, sous le boulevard Gambetta, deux jeunes filles qui étaient là, nigérianes, et puis Marion, la belle-sœur d'Emmanuel, qui a commencé le travail de Open Joy Nîmes, dit à un moment donné, donc les deux sont assises dans l'abribus et disent, le pasteur va vous partager, en anglais en plus, alléluia, va vous partager un message biblique. Et là, elles se sont levées avec beaucoup de respect. Je disais, mais quelle, waouh. Quand on les entend, on se dit, mais quand on prie avec elles dans la rue, elles disent, Seigneur, merci pour cet air que tu nous donnes. Vous savez, ça relativise nos problèmes. Elles auraient toutes les raisons valables de lever le poing, d'en vouloir à tout le monde, d'en vouloir, et elles sont dans la reconnaissance. Ah non, elles ne disent pas « Seigneur, merci parce que je suis là ». Non, hein. Mais elles trouvent, à travers toutes leurs souffrances, toutes leurs difficultés, le moyen de continuer à louer Dieu. Waouh ! Waouh !
J'ai mon petit papier parce que je ne veux rien rater, je ne veux rien oublier de vous raconter ce qu'on vit. Vraiment, c'est tellement extraordinaire. Moi j'ai grandi dans une église où on parlait du travail parmi les drogués, parmi les alcooliques, tout ça. Et jamais on n'a parlé du travail parmi des prostituées. Ça fait que, comme disait Emmanuel, moi le regard que j'avais sur ces femmes, j'avais aucun regard, c'était l'indifférence. Jamais il me serait venu à l'idée un jour que j'allais prier pour une prostituée. Et bon, ma vie, il y a un an et demi, quand l'équipe de Hope and Joy est venue à faire un genre de présentation comme ça à l'église de Marguerite, oh là là, j'avais l'impression, j'ai vu la petite vidéo avec cette jeune femme, j'ai écouté les témoignages, Emmanuel qui disait « Oui, on n'est pas là pour aller les sortir de leur prison, les sortir de leur enfer, parce qu'on mettrait en danger nos familles et nous-mêmes, on mettrait nos vies en danger parce qu'on est surveillés. » Eric, il a l'œil pour ça, il regarde, moi je ne vois rien du tout, mais lui, il voit, hein, heureusement, ça nous protège. Ça. Et il disait, oui, et ça m'avait touchée, on n'est peut-être pas là pour les sortir de leur prison, mais on peut aller les visiter dans leur prison, leur apporter un peu de réconfort, les voir, leur apporter un peu d'amour, de tendresse, une parole, les écouter. Et ça m'avait touchée, et mon cœur a été bouleversé, comme pour Eric. À la fin de la réunion, j'ai été les trouver, leur dire, mais comment est-ce que je peux aider? Et alors voilà, donc ça fait un an et demi, on va sur le chemin des canaux. Alors qu'est-ce qu'on... L'hiver, on leur amène des boissons chaudes, du café, du chocolat. Ils sont là pendant des heures, dans le froid, le vent. Et elles sont frigorifiées. On en a une qui est tellement anorexique, tellement maigre. Alors on leur apporte un peu de... Voilà, quelque chose à manger, quelque chose à boire. On prend le temps de les écouter, on leur pose des questions, on leur dit « ça va, est-ce qu'il n'y a personne qui vous maltraite, il n'y a pas des hommes qui sont violents avec vous ?» On s'intéresse à elles, on leur apporte la parole de Dieu. Voilà, Eric, il a une cargaison, enfin quelqu'un nous a offert gracieusement toute une cargaison de Bible en bulgare, en roumain, en espagnol, et on leur offre la parole de Dieu. Mais surtout, on prend le temps, voilà, de les écouter, de prendre de leurs nouvelles. Et petit à petit, il y a des liens qui se créent entre nous. On y va régulièrement. Et comme disait Eric tout à l'heure, oui, on en a une. À peine elle nous voit arriver, elle court. Elle est toute enthousiasmée. Elle vient. Et elle est contente. La dernière fois, on est passé. Elle dansait quand elle a vu la voiture arriver. Et voilà, comme disait Eric, mais dans mon église, aucun de chrétien, aucune de mes ouailles, aucune personne de mon église vient en courant me saluer comme ça. Donc ça touche nos cœurs de voir la joie qu'elles ont. On est attendu de voir cet enthousiasme. Ça vaut la peine ce qu'on fait. Et voilà, donc on prend le temps de les écouter. Elles nous parlent de leur famille. Petit à petit, il y a des liens qui se créent. Elles ouvrent leur cœur. Elles nous parlent de leurs enfants qui sont restés au pays. Alors il y a des mamans, elles ont le cœur brisé parce qu'elles ne peuvent pas voir leurs enfants souvent. Et beaucoup nous disent, mais pourquoi vous faites ça pour nous? Pourquoi est-ce que vous venez nous voir? Alors on leur dit, parce que vous avez un papa là-haut dans le ciel qui est rempli d'amour pour vous, parce que vous êtes des princesses pour lui, parce que vous êtes précieuses, parce que vos vies ont de l'importance pour lui, parce qu'il s'intéresse à vous. Alors c'est un peu comme s'il utilise nos bras, nos jambes, nos bouches pour vous parler, vous dire qu'il vous aime, que vous êtes des princesses. Vous êtes précieuses pour lui, il vous aime d'un amour inconditionnel et... Il a écrit vos noms, le nom de chacune d'entre vous sur la paume de ses mains et tous les jours, il s'intéresse à vous, vous êtes précieuses, vous avez de la valeur et du prix pour lui. Et on leur apporte un message d'espérance, d'espoir, parce que Dieu a de bons plans pour elles. Elles ont une espérance, elles ont un avenir, leur vie, elle n'est pas finie, ce ne sont pas que de la crotte. Elles se sentent tellement humiliées, tellement... blessées, elles sont violées, elles sont battues, elles sont loin de leur famille, elles sont dans un esclavage, dans un enfer, et que quelqu'un leur parle de l'amour de Dieu. Et je pense à une petite histoire qu'Eric nous a partagée une nuit. Le groupe va vers un petit groupe de quelques jeunes femmes, et après quelques échanges, Eric il leur dit « Mais vous êtes des princesses !» Vous êtes des princesses, et il continuait de dire, vous êtes des princesses, vous êtes des bien-aimées, vous êtes des filles de roi. Et elles étaient. Et il y en a une qui disait, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et Eric insistait, oui, tu es une princesse, tu es une bien-aimée de Dieu, tu es une fille de roi, tu es une princesse. Qu'est-ce que j'ai fait? Et cette fille, Elle disait non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et c'était comme si c'était quelque chose de spirituel dans l'invisible. Ces paroles d'Éric, c'était comme un marteau et un burin qui essayaient de casser cette carapace de ces jeunes femmes pour trouver un chemin jusqu'à leur cœur, pour que l'amour de Dieu puisse venir et toucher leur cœur. Et ça a été quelque chose d'important, parce que c'est notre but, leur parler de l'amour de Dieu, leur dire que voilà, Dieu s'intéresse à elle et voilà, qu'il y a de l'espoir, un avenir pour elle, quoi. Et elles ont tellement besoin d'amour et de tendresse. Alors bon, qu'est-ce qu'on fait? On les prend dans nos bras. Et là, elles n'ont pas l'habitude qu'on leur témoigne, qu'on les prenne dans les bras, qu'on leur témoigne un peu d'amour, de compassion. Elles fondent dans vos bras. Elles sont... Enfin, voilà, on essaie de... Alors, je regarde mes notes, je ne veux pas oublier... Oui, voilà, donc, ouais. Alors oui, il y a d'autres organisations, d'autres associations qui vont les aider, notamment Arap Ruby, qui les aide dans le domaine médical. On leur fait des visites médicales et on leur propose des préservatifs pour les protéger, elles, de maladies. Mais on travaille en collaboration. Nous, on leur apporte le côté spirituel, l'écoute, le réconfort. Elle nous parle et bon, il y a des liens qui se créent, c'est ça. On ne travaille pas en compétition, mais on travaille ensemble dans le même but de pouvoir les aider. Donc on leur donne des conseils, on les met en relation avec différents donc, partenaires. Oui, et parfois elles nous ouvrent leur cœur et elles partagent avec nous combien elles sont... Il y en a une qui a été agressée il n'y a pas si longtemps que ça. Elle s'est fait voler. Un homme l'a agressée pour essayer de lui voler l'argent qu'elle avait caché sur elle. Et il lui a braqué un pistolet sur la tempe. Et elle nous racontait ça. Elle disait, votre vie, elle passe rapidement devant vos yeux, quoi. Une autre, parce qu'il y a des rixes entre elles, parce qu'il y a une nouvelle qui venait d'Alès, se trouvait sur un emplacement... qui n'était pas le sien, et ben d'autres filles ont envoyé un homme de main pour lui tirer dessus. Il a tiré 3 balles. Heureusement, elle a rien eu. Mais bon, vous voyez, entre elles, c'est pas facile non plus. Et elles partagent ces choses avec nous, quoi. Et alors, on essaie de les aider à se reconstruire. Et là, Éric a beaucoup de contacts. On leur demande leur curriculum vitae parce qu'elles veulent s'en sortir. Elles veulent trouver du travail. Elles veulent sortir de cet enfer. Alors, avec les moyens qu'on a, voilà, Éric leur demande leur curriculum vitae. Il a beaucoup de contacts. Et elles sont prêtes à travailler, faire les travaux des champs ou des ménages, tout ça. Et à la dernière présentation qu'on a faite dans une autre église, on a rencontré une personne qui est un cadre infirmier et qui s'occupe de l'embauche à la maison de santé protestante. Et là, Éric aiguille, il donne les CV et pour un entretien d'embauche. Et là, il y a une fille qui nous a donné son CV. Donc, il y a de l'espoir pour elle de se reconstruire, d'avoir un métier pour pouvoir à ses besoins et de changer de vie, quoi. Donc, voilà, on les aide aussi. Et... oui, dans le partage de la foi, la louange, on en a une. On parlait de louange tout à l'heure, de reconnaissance. Oui, on les appelle nos bien-aimés, parce que ça devient nos filles, nos bien-aimés. Elle nous partageait... elle avait essayé de faire des économies. Elle avait mis de côté 5000 euros pour envoyer à ses parents. Elle est camerounaise. Et elle voulait envoyer cet argent à ses parents pour les aider à reconstruire leur maison qui était toute délabrée au Cameroun. Et elle a confié cet argent, ces 5000 euros, à son neveu, en qui elle avait confiance. Et voilà que, quelques temps après, elle découvre sur Internet que son neveu avait dépensé tout cet argent, ces 5000 euros qu'elle lui avait confiés. Alors bien sûr, elle partage ça avec nous, c'est sûr qu'elle n'était pas très contente, quoi, mais elle avait une bonne attitude de cœur, au lieu de se révolter, d'avoir de la haine, de l'amertume, de la colère contre son neveu, elle venait vers nous en chantant « Mon papa dans le ciel ne m'abandonnera jamais », et elle louait Dieu, avec Eric et une autre coéquipière, on était scotchés. On se disait, mais mince, moi, je ne sais pas comment je réagirais si on me volait de l'argent comme ça. Et... Mais non, elle avait un cœur, une bonne disposition de cœur. Et bon, ça a été une bonne leçon, en tout cas pour moi, de voir que malgré ça, ben, c'est, le Seigneur, on leur donne quelque chose, on leur apporte quelque chose, mais elle nous apporte aussi énormément. Ben, c'est la foi toute simple, toute spontanée de cette fille, ça nous a encouragés, ça nous a boostés. Ça, enfin voilà, et je me rappelle la même personne, on avait été la voir et on commençait quelques échanges et tout. Et puis tout à coup, il y a des clients qui arrivent. Alors quand un client arrive, on les respecte, on sait qu'elles ont besoin de travailler. Donc on se retire de nous-mêmes, on reste pas. Et on était partis, on l'avait laissé, la priorité était à son client. Et entre-temps, on va voir une autre fille un petit peu plus loin. Et voilà que quelques temps après, on voit une voiture qui arrive en vrombissant, enfin, même je ne sais plus si c'est le bon mot, vrombissant, enfin, à toute allure, une voiture qui arrive là vers nous. On était en plein dans les champs de vignes, les arts fruitiers. Et qui c'était? C'était notre Maëva qui était venue parce qu'on avait oublié de prier pour elle. Et elle voulait à tout prix qu'on prie pour elle, qu'on prenne du temps avec elle. Alors, elles ont une telle soif de la parole de Dieu. On leur donne la parole de Dieu. Il y en a une qui nous attendait dans sa voiture. Elle lisait la parole de Dieu. Elle nous pose des questions. Elles veulent savoir. Et je me rappelle, cette personne-là, il y avait un grand champ de vignes à côté. Il y a un grand troupeau de moutons qui broutait les herbes, tout ça. Et bien sûr, Eric, il a sauté sur l'occasion, il a commencé à lui parler de Jésus, qui est le bon berger, qui a laissé les 99 autres brebis pour venir chercher celle qui était perdue et tout. Et elle était là, elle écoutait, elle était attentive. Vous voyez, la parole de Dieu se consomme. Vous êtes une bande de semeurs et d'adorateurs, vous, dans cette église. Et bien voilà, se consomme, et bien la parole de Dieu, elle porte son fruit et ça travaille les cœurs, il nous pose des questions. Et aussi, le travail de suite est important parce que, on est toujours dérangé par les clients. C'est trop rapide, le peu de temps qu'on passe avec elles quand on va les voir sur la route. Alors, on les invite à un repas qu'on prépare. Et je me rappelle, avec Marion, qui était notre leader, et Emmanuel, on avait invité une de nos filles. Et Marion, comme elle est bulgare, lui avait préparé des spécialités bulgares. Et ça l'avait touchée. C'était son anniversaire et ça l'avait touchée. Elle était venue. Et là, seule, on peut prendre du temps de qualité avec elle. Elles ouvrent leur cœur, elles nous parlent de leurs problèmes, elles posent des questions. La dernière fois, Emmanuel lui parlait parce qu'elle disait « Ouais, comment ça se fait? Vous n'avez pas de bénitier, là, de l'eau bénite pour se signer et tout. » Et Emmanuel qui lui apporte la parole de Dieu, qui lui explique le baptême, tout ça. Et elles sont là, elles écoutent, elles sont attentives. Et après, on prend un temps où on peut prier ensemble. Et cette personne, on avait prié ensemble à la fin. Et tout à coup, elle se met à pleurer, mais à fondre en larmes. Et elle-même, elle se demandait, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais pourquoi je pleure comme ça? Et elle disait, j'ai comme une chape de plomb sur mes épaules. J'ai comme quelque chose qui tombe. Et elle ne savait pas que c'était l'Esprit de Dieu qui touchait son cœur. Il y avait un attouchement de l'Esprit de Dieu. Elle ne savait pas, elle ne se rendait pas compte, mais c'était quelque chose de bon et elle était bien. Et la dernière fois avec Emmanuel, quand on a prié pour elle, elle disait, mais je ne sais pas ce qui m'arrive, je ne tiens plus sur mes jambes, est-ce que je peux m'asseoir? Et puis elle disait, mais comment ça se fait? Quand vous priez pour moi, il se passe des choses, et quand je prie toute seule, il ne se passe rien. Alors bon, donc on garde le contact avec ces filles, le travail de suite est important, il y a des liens d'amitié, elles deviennent importantes, précieuses, et j'ai rien oublié, je regarde mes notes parce que... De quoi? C'est bon? Bon, c'est bon, mon pasteur il me dit c'est bon. Voilà, ben écoutez. Bon, ben c'est bon.
Comme le disait Ghislaine, oui, c'est vrai que pour certaines d'entre elles, nous leur cherchons du travail pour la simple raison que certaines viennent de pays, Bulgarie, etc. Puis, comme c'est une prostitution différente, ça fait qu'elles sont dans l'obligation de renvoyer de l'argent à la maison. Donc, si elles ont un travail mieux que ça, effectivement, on est preneur. D'autres jeunes femmes, comme les Nigérianes, vont avoir à un moment donné de leur parcours, peuvent accéder à des papiers. Le problème, c'est que tant qu'elles n'ont pas payé leurs dettes, mais une fois qu'elles payent leurs dettes, souvent, il y a toujours la misère, donc elles continuent, en fin de compte, à aller à se prostituer. Et c'est vrai que le fait d'avoir et d'être en contact avec des entreprises, ça permet aussi eh bien, de leur donner un avenir et de l'espérance. Alors, pour terminer, on est venu vous présenter le travail que l'on fait, et je pense que ça nous concerne tous. On restera à la sortie, il y a des flyers si vous souhaitez, et si vous avez des questions, vous pouvez même laisser votre email si vous souhaitez, on fait 2-3 fois par an une lettre de nouvelles. De quoi avons-nous besoin? Et si on est là, c'est parce qu'il y a des besoins. Alors certes, je ne vais pas vous mentir, on a besoin de finances, ça c'est, je ne vais pas terminer par ça en disant « et puis de finances ». Non, non, il faut être vrai et franc, on a besoin de finances, on a besoin de prières. On a besoin d'équipiers, on a besoin de personnes avec nous. Aujourd'hui, on se limite dans la journée, dans les sorties de jour, parce que nous ne sommes pas assez d'équipiers. Et on aimerait développer d'autres secteurs que l'on ne peut pas à ce jour, parce qu'on est en manque d'équipiers. Alors, quels sont les critères de recrutement et même les questions à se poser? C'est sûr qu'on vous a montré une vidéo. Et bien sûr, une vidéo fait appel à l'émotion. On est d'accord hein, là-dessus. Quand on entend des témoignages, ça fait un appel à l'émotionnel. Donc effectivement, il faut avoir un cœur. Mais le cœur n'est pas suffisant. Le cœur n'est pas suffisant. Il faut prendre le temps de prier pour cela. Ça peut être plusieurs mois, plusieurs semaines. Se poser la question, quelle serait ma motivation pour rejoindre l'équipe? Parce qu'il ne faut pas se tromper d'objectif, comme l'a dit Emmanuel, notre objectif ce n'est pas de les sortir de la rue, mais c'est de les visiter dans la rue. Notre question à se poser, qu'ai-je à cœur quand je pense à ces personnes victimes de la prostitution? Est-ce que, quels sont mes dons, mes talents? Puis-je les exercer à cette place? Si j'ai été victime d'abus, est-ce que ces choses sont réglées dans ma vie? C'est une question aussi importante. Suis-je au clair par rapport à ma propre sexualité? Ça aussi, c'est une très bonne question à se poser. Suis-je capable de garantir ma présence une fois par mois? Nous faisons les sorties les mardis. On ne demande pas une présence à toutes les sorties, mais une présence régulière une fois par mois, parce que ces jeunes femmes ont besoin de tisser des liens et la régularité est primordiale. Ai-je pensé, et c'est une bonne question aussi, ai-je pensé ou réfléchi aux conséquences spirituelles et sexuelles de cet engagement envers moi et même envers mon conjoint? Mon conjoint est-il favorable à cet engagement? Est-ce que cela ne sera pas une source de tension? Et c'est bien d'en discuter, d'en parler également avec ses responsables, de voir ce qu'ils en pensent et de prendre le temps de prier. Je pense que c'est important, il ne faut pas s'engager comme cela. Prendre le temps de prier, de recevoir la confirmation du Seigneur que eh bien, ça serait peut-être un engagement. Je crois qu'il y a différentes manières de servir le Seigneur. Et notre but, justement, de passer dans les églises, de se dire peut-être cela va interpeller une personne qui, au-delà simplement de l'émotionnel, se dit c'est peut-être quelque chose que j'aimerais faire. Alors si c'est votre cas, priez pour cela, parlez-en avec vos responsables, priez-en si vous êtes marié avec votre époux ou si vous êtes un homme avec votre épouse, parce qu'on a besoin aussi d'hommes, hein, comme disait Emmanuel, avec un regard de père, avec un regard différent. Donc voilà ce que nous voulions ce matin vous partager. Merci énormément de votre accueil, de votre attention. Merci, en tout cas, je sais que ça travaille, hein, je sais que ça remue. Je sais que ça ne laisse pas indifférent, mais en tout cas, merci énormément d'avoir pris le temps et de m'avoir donné ce temps-là pour pouvoir et de nous avoir donné ce temps-là pour partager. Merci à vous. Seigneur, merci pour ce temps d'échange, ce temps de partage, cette exhortation. Seigneur, merci parce qu'à travers toutes ces vies bouleversées, brisées, Seigneur, cela nous permet de relativiser nos propres problèmes, non pas que nos problèmes ne sont pas importants, mais Seigneur, il y a deux mots dans ta parole qui nous montrent de l'espoir et de l'espérance dans toutes ces situations, pour chacun d'entre nous. quelles que soient ces situations, ta parole nous dit « Mais Dieu ». Dans énormément de situations, Seigneur, tu as le dernier mot. Tu as le dernier mot sur nos souffrances, tu as le dernier mot sur nos situations difficiles. Et pour ces jeunes femmes que nous rencontrons, pour ces jeunes hommes que nous rencontrons, Seigneur, nous voulons croire que tu as le dernier mot. Merci de ce que tu as fait de nous des lumières afin de porter ton témoignage. Seigneur, merci pour la diversité du corps, de ton corps, pour les diversités de talents. Seigneur, nous te prions pour qu'il y ait sur cette ville de Nîmes un impact particulier et puissant. Notre volonté et ta volonté, Seigneur, c'est que tous ces réseaux d'esclavage tombent au nom de Jésus. Seigneur, merci à chaque fois qu'un réseau est démantelé, à chaque fois que des proxénètes sont mis en prison. Seigneur, nous te prions pour qu'il y ait plus de liberté et plus de libération de cet esclavage parce que tu es venu rendre libres ceux qui sont esclaves. Nous voulons pas simplement porter le message, nous voulons le voir s'accomplir. Merci de garder nos pensées, de garder nos cœurs, de garder chacun d'entre nous. Amen.
Merci beaucoup, Eric.